On behalf of the General Assembly, I have the...
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée.
Bismillahirrahmanirrahim.
Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux. D'emblée, je souhaiterais que Dieu soit blessé, que notre prophète soit béni également, ainsi que tous ses compagnons. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je souhaiterais exprimer mes plus sincères félicitations à vous, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la présidence de l'Assemblée générale. Et je souhaiterais prendre un moment pour exprimer toute ma satisfaction face aux efforts dignes de louange déployés par le secrétaire général. Monsieur le Président, notre monde d'aujourd'hui est plein de craintes et d'espoir, crainte de la guerre et de relations hostiles sur le plan régional et mondial, crainte de confrontations meurtrières, d'identités religieuses, ethniques et nationales, crainte de l'institutionnalisation de la violence et de l'extrémisme, crainte face à la pauvreté et à la discrimination destructrice, crainte face aux ressources qui sont détruites et qui pourtant maintiennent la vie, et crainte de manque de respect pour la dignité humaine et les droits de l'homme, et crainte de la chute de la morale. Parallèlement à ces craintes, il y a cependant des espoirs, l'espoir de l'acceptation universelle par la population et par l'élite dans le monde entier de l'idée du oui à la paix et non à la guerre. L'espoir de voir prévaloir le dialogue plutôt que le conflit et la modération plutôt que l'extrémisme. Les élections qui se sont tenues récemment en Iran représente un exemple très clair et vivant d'un choix très sage pour l'espoir, le caractère rationnel et la modération réalisés par le grand peuple d'Iran. La mise en œuvre de la démocratie tout en respectant la religion, le transfert pacifique du pouvoir exécutif. Ceci a montré que l'Iran est une ancre de stabilité dans un océan d'instabilité régionale. La foi profonde de notre population et de notre gouvernement en une paix durable, en la stabilité, en la résolution pacifique des différends et au fait de se baser sur les urnes en tant que socle du pouvoir et pour assurer la légitimité. Voilà des éléments qui ont joué un rôle essentiel pour créer un environnement sûr. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la période de transition actuelle, période critique dans les relations internationales, comporte de nombreux dangers, mais également des possibilités tout à fait uniques. Toute mauvaise interprétation de la position des uns ou des autres pourrait avoir des incidences historiques. Une erreur commise par un acteur aura une incidence négative sur tous les autres. La vulnérabilité, aujourd'hui, est un phénomène planétaire indivisible. À cette étape importante de relations mondiales, les jeux à somme nulle appartiennent au passé, même si quelques acteurs encore continuent de se reposer sur des moyens très inefficaces et très archaïques afin de préserver cette supériorité qu'ils avaient et cette domination qu'était la leur. Le militarisme et le recours à des moyens violents et militaires pour soumettre les autres sont des exemples manqués du fait de maintenir des méthodes archaïques dans des circonstances nouvelles, des politiques militaires et économiques coercitives et des pratiques qui ont pour objectif de maintenir des dominations et des supériorités anciennes se sont développées dans un état de pensée qui nie la paix, la sécurité, la dignité humaine et les idéaux humains. Faire fi des différences qui existent entre les sociétés et tenter d'universaliser les valeurs occidentales en tant que valeurs universelles, voilà un autre exemple de cette façon de penser. Et pourtant, il s'agit d'une autre illustration de ce modèle cognitif, de cette existence encore de la mentalité de la guerre froide et d'une division bipolaire du monde entre nous, les êtres supérieurs, et les autres êtres inférieurs. Susciter la peur face à l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène mondiale est un autre exemple. Dans ce genre d'environnement, la violence gouvernementale, non gouvernementale, religieuse, ethnique et parfois même raciale n'a fait qu'augmenter. Et il n'y a aucune garantie que l'ère de paix entre les grandes puissances ne sera pas touchée par ce genre de discours, ce genre de pratiques et d'actions violentes. L'incidence catastrophique de la violence et des discours extrémistes ne devrait pas être sous-estimée. Dans ce contexte, la violence stratégique qui est illustrée dans les efforts visant à priver les acteurs régionaux de leur domaine d'action naturel pour susciter des changements de régime de l'extérieur et des efforts qui tentent de redessiner des frontières politiques représentent une façon d'agir extrêmement dangereuse et pleine de provocations. La prévalence d'un discours politique international dépeint un centre civilisé entouré par des périphéries qui ne le sont pas. Et sur cette scène, la relation entre le centre de la puissance mondiale et les périphéries est une relation hégémonique. Le discours qui vise à donner le rôle principal au Nord et à reléguer le Sud à la périphérie a mené à l'établissement d'un monologue au niveau des relations internationales. La création de certaines distinctions identitaires illusoires, la prévalence de certaines formes violentes de xénophobie représente un résultat inévitable de ce genre de discours. Des discours de propagande islamophobe, chiitophobe, iranophobe représentent des menaces sérieuses à l'encontre de la paix et du mondial et de la sécurité de l'homme. Ce genre de discours de propagande a pris des proportions extrêmement dangereuses, notamment en imaginant certaines menaces. Une de ces menaces imaginaires, c'est la menace iranienne qui a été utilisée pour justifier une longue liste de crimes et de pratiques épouvantables depuis plus de 30 ans. L'armement du régime de Saddam Hussein avec des armes chimiques et le fait d'appuyer les talibans et Al-Qaïda sont deux exemples parmi nous de ce genre de catastrophe. Et je vous le dis de manière très sincère devant cette Assemblée mondiale, qu'on se base ici sur des cas évidents. Ceux qui se plaignent de la menace de l'Iran, soi-disant menace de l'Iran, représentent une menace eux-mêmes à la paix et à la sécurité internationale ou vont promouvoir cette menace. L'Iran ne représente absolument pas une menace pour le monde ou par la région. En fait, en théorie et en pratique, mon pays a toujours défendu la paix et la sécurité globale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans nul coin du monde a-t-on assisté à une violence aussi terrible que celle en Afrique du Nord et dans l'ouest de l'Asie. L'intervention militaire en Afghanistan, la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran, l'occupation du Koweït, les interventions militaires contre l'Irak, la répression sanglante de la population palestinienne, l'assassinat de personnes ordinaires et de personnalités politiques en Iran, des attentats terroristes dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan et le Liban. Voilà des exemples de violences commises dans cette région depuis 30 ans. Ce qui a été réalisé contre le peuple innocent de Palestine et continue de l'être, ce n'est rien d'autre que de la violence structurelle. La Palestine est sous occupation. Les droits fondamentaux des Palestiniens sont violés tragiquement. Ils sont privés de leur droit de retour. Ils sont privés de l'accès à leur maison, à leur lieu de naissance, à leur patrie. L'apartheid, en tant que concept, peut à peine décrire les crimes et l'agression institutionnalisée perpétrée contre le peuple palestinien innocent. La tragédie humaine en Syrie représente un exemple douloureux de la propagation de la violence et de l'extrémisme dans notre région. Le départ de la crise, lorsque certains acteurs régionaux et internationaux ont aidé à militariser la situation en faisant entrer des armes et des unités de renseignement dans le pays et en appuyant des groupes extrémistes, nous avons souligné le fait qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise syrienne. Le fait de mener des stratégies expansionnistes afin de modifier l'équilibre régional par le truchement d'autres ne peut être camouflé derrière une rhétorique humanitaire. L'objectif commun de la communauté internationale devrait de mettre fin rapidement au massacre d'innocents, tout en condamnant toute utilisation d'armes chimiques. Nous nous félicitons du fait que la Syrie ait accepté la Convention sur les armes chimiques. Et nous pensons que l'accès à ces genres d'armes par des groupes extrémistes représente le danger majeur pour la région. Et ceci doit être pris en considération dans tout plan de désarmement. En même temps, je souhaiterais mettre en exergue que la menace inefficace et illégitime d'utiliser la force ne fera qu'aggraver la violence et la crise dans la région. Le terrorisme et le massacre de personnes innocentes représentent l'étape ultime de l'inhumaine de l'extrémisme et de la violence. Le terrorisme est un fléau épouvantable et ne connaît pas de frontières. Mais la violence et les actions extrêmes, comme l'utilisation de drones contre des populations innocentes, au nom du combat contre le terrorisme, devraient aussi être condamnées. Et ici, j'aimerais dire quelques mots concernant l'assassinat criminel de scientifiques nucléaires iraniens. Pourquoi, pour quels crimes ont-ils été assassinés? Les Nations Unies et le Conseil de sécurité devraient répondre à cette question. Est-ce que les responsables de ces crimes ont été condamnés? Des sanctions injustes en tant que manifestation de violence structurelle représentent intrinsèquement quelque chose d'inhumain et vont à l'encontre de la paix et sont contraires à ce que disent ceux qui veulent les imposer. Ce ne sont pas les États et l'élite politique qui sont la cible, c'est plutôt le peuple ordinaire qui est victime de ces sanctions. N'oublions pas les millions d'Irakiens qui, à cause des sanctions, tel était le terme utilisé dans le jargon juridique, ont perdu leur vie. Pensons à ceux qui continuent de souffrir encore maintenant, tout au long de leur vie. Ces sanctions sont violentes, purement et simplement, qu'on les appelle des sanctions fondées, unilatérales ou multilatérales, peu importe. Ces sanctions violent les droits de l'homme de base, notamment le droit à la paix, le droit au développement, le droit à l'accès aux soins de santé et à l'éducation et surtout le droit à la vie. Les sanctions, au-delà de tout exercice de rhétorique, ne vont causer que des guerres et des souffrances aux populations. N'oublions pas, cependant, que l'incidence négative de ces sanctions ne se limite pas aux personnes qui sont victimes de ces sanctions. Il y a également une incidence sur l'économie et sur la façon de vivre de d'autres pays, d'autres sociétés, y compris des pays qui imposent ces sanctions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la violence et l'extrémisme aujourd'hui ont maintenant dépassé les frontières et ont maintenant ternit les dimensions mentales et spirituelles de la vie dans les sociétés humaines. L'extrémisme et la violence ne laissent aucun espace pour la modération en tant que socle important de la vie collective des êtres humains et d'une société moderne. L'intolérance est un fléau de notre époque. Nous devons promouvoir et renforcer la tolérance à la lumière des enseignements religieux et à la lumière de certaines approches politiques et culturelles adéquates. La société humaine devrait arriver à cette coopération collective et pas seulement en rester à une tolérance. Nous ne devrions pas simplement tolérer les autres. Nous devrions aller au-delà de cela et nous devrions oser travailler de concert. Les populations de par le monde sont lasses de la guerre, de la violence, de l'extrémisme. Elles espèrent un changement du statu quo. Et nous avons maintenant une opportunité unique. La République islamique d'Iran pense que tous les défis peuvent être relevés avec succès grâce à un mélange judicieux d'espoir et de modération. Ceux qui prônent la guerre essayent de supprimer tout espoir. Mais l'espoir d'un changement pour le meilleur est un concept inné, religieux et très répandu et universel. L'espoir est fondé sur la foi dans la volonté universelle des populations de par le monde de combattre la violence et l'extrémisme, de chérir le changement et de choisir conformément à la responsabilité de l'homme. L'espoir, sans aucun doute, est un des grands cadeaux que le Créateur nous a offerts. Et la modération, c'est réfléchir et agir de manière sage en étant conscient du temps et de l'espace et de respecter des idéaux, de choisir de manière efficace des stratégies et des politiques tout en reconnaissant les réalités objectives. Le peuple iranien, dans son choix lors des différentes récentes élections, a voté pour l'espoir et pour la modération prudente au niveau national et à l'étranger. En matière de politique étrangère, la combinaison de ces différents éléments signifie que la République islamique d'Iran, en tant que puissance régionale, va agir de manière responsable concernant la sécurité régionale et internationale et est prête à coopérer dans ces domaines de manière bilatérale et multilatérale avec d'autres acteurs responsables. Nous défendons la paix en nous basant sur la démocratie et sur les urnes partout, y compris en Syrie, au Bahreïn et dans d'autres pays de la région. Et nous pensons qu'il n'y a pas de solution violente aux crises mondiales. Les réalités amères de la société humaine ne peuvent être surmontées que si on se base et qu'on a recours à la sagesse de l'homme, à l'interaction et à la modération. Assurer la paix et la démocratie, assurer le respect des droits légitimes de tous les pays du monde, y compris au Proche-Orient, tout cela ne peut être fait par le militarisme. L'Iran tente de résoudre les problèmes et pas de les créer. Il n'y a aucune question, aucun dossier qui ne puisse être résolu par l'espoir et la modération prudente, le respect mutuel et le rejet de la violence et de l'extrémisme. Le dossier nucléaire de l'Iran est précisément un exemple de cela. Comme l'a mentionné le dirigeant de la révolution islamique, le fait d'accepter le droit inaliénable de l'Iran représente la meilleure façon et la façon la plus facile de résoudre ce problème. Il ne s'agit pas ici de rhétorique politique. Plutôt, il s'agit d'un élément qui se base sur la reconnaissance de l'état de la technologie auquel est arrivé l'Iran, un environnement politique mondial et la fin des jeux à somme nulle. Nous tentons de chercher atteindre des objectifs communs en partageant nos préoccupations. En d'autres termes, l'Iran et d'autres acteurs devraient poursuivre deux objectifs communs en tant que partie intrinsèquement liée d'une solution politique pour le dossier nucléaire iranien. Tout d'abord, le programme nucléaire iranien. Et cela est valable également pour d'autres pays. Ce programme doit donc poursuivre des objectifs exclusivement pacifiques. Et je déclare ici, ouvertement et sans aucune ambiguïté, que peu importe la position des autres, ceci a été et sera toujours l'objectif de la République islamique d'Iran. Les armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive n'ont pas leur place dans la doctrine de défense et dans la doctrine sécuritaire de l'Iran et contredisent nos convictions éthiques et religieuses fondamentales. Nos intérêts nationaux font qu'il est impératif que nous supprimions toute préoccupation qui pèserait sur ce programme nucléaire pacifique iranien. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est le fait d'accepter et de respecter la mise en œuvre du droit d'enrichir l'uranium à l'intérieur de l'Iran. Ceci fournit le seul moyen d'atteindre le premier objectif. Les connaissances en matière nucléaire sont maîtrisées en Iran maintenant, notamment l'enrichissement. Et ceci a déjà atteint l'échelle industrielle. Il est donc illusoire et tout à fait irréaliste de penser que la nature pacifique du programme nucléaire de l'Iran pourrait être assurée en empêchant la réalisation de ce programme par le biais de pressions illégitimes. Dans ce contexte, la République islamique d'Iran insiste sur la mise en œuvre de ses droits et sur le respect international et la coopération. Et dans ce contexte, est prêt à commencer des négociations orientées vers les résultats et limitées par un calendrier pour construire une confiance mutuelle et pour supprimer certaines incertitudes dans une transparence complète. L'Iran cherche à coopérer avec d'autres pays en se basant sur le respect mutuel et sur les intérêts communs. Et dans le même cadre, ne souhaite pas augmenter des tensions avec les États-Unis. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention faite par le président Obama aujourd'hui devant l'Assemblée générale. Et la hauteur de sa volonté politique, de la volonté politique des autorités des États-Unis, en espérant qu'ils rejetteront des intérêts à court terme et qu'ils ne céderont pas aux groupes de pression belliqueux, nous pensons que nous pouvons arriver à un cadre pour gérer nos différences. À cette fin, le respect mutuel, l'égalité, les principes reconnus du droit international devraient régir nos interactions. Et bien entendu, nous espérons entendre une voix cohérente émanant de Washington. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces dernières années, une voix a retenti à maintes reprises. L'option militaire est sur la table. Dans ce contexte de déclarations tout à fait inefficaces et illégales, j'aimerais dire clairement que la paix est à portée de main. Donc, au nom de la République islamique d'Iran, je propose comme point de départ que les Nations unies examinent le projet suivant : le monde contre la violence et contre l'extrémisme. Il faut que nous rejoignions tous cette grande vague. Et j'invite tous les États, les organisations internationales, les institutions civiles à déployer de nouveaux efforts pour guider le monde sur cette voie. Nous devrions maintenant nous pencher sur l'idée d'une coalition pour une paix durable dans le monde entier, plutôt que de privilégier des coalitions pour la guerre dans différentes régions du monde. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran vous invite et invite toute la communauté mondiale à faire un pas en avant. Nous vous lançons une invitation à rejoindre ce nouveau projet que je viens de mentionner, le monde contre la violence et l'extrémisme. Nous devrions pouvoir ouvrir un nouvel horizon où prévalerait la paix plutôt que la guerre, où prévalerait la tolérance plutôt que la violence, le progrès plutôt que les bains de sang, la justice plutôt que la discrimination, la prospérité plutôt que la pauvreté et la liberté plutôt que la tyrannie. Comme l'a dit magnifiquement Ferdowsi, un grand poète épique iranien, ne cessez pas vos efforts pour défendre la cause du bien. Amenez le printemps, c'est ce que vous devez faire, mais vous devriez aussi bannir l'hiver. Même s'il y a encore de nombreux défis à relever, je suis optimiste concernant l'avenir. Je n'ai pas aucun doute. L'avenir sera brillant pour le monde entier si l'on rejette la violence et l'extrémisme. Une modération prudente assurera un avenir brillant pour le monde. Mon espoir vient de cette croyance partagée par toutes les grandes religions que un avenir brillant et bénéfique est bien là pour le monde. Comme l'a dit le Saint Coran, et nous l'avons proclamé dans les psaumes, après l'avoir proclamé dans la Torah, que heureux les gentils, puisqu'ils hériteront la terre. Merci, Monsieur le Président.
Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président de la République islamique d'Iran de son intervention. Je demanderai aux représentants de rester assis alors que nous prenons congé du président.